vào mận ăn, tiền vô túi tôi thật nhiều. Ông đem gậy lăm le đưa vô cái bọn giàu sang.
Bao năm đã quen tay khi mang chiếc gậy thần kiếm vàng vô, tiền thật nhiều cũng bị chia trùm quyền làng.
Xin đừng có rung bay thiên hạ dừng giàu sang, bao che gái cưng của mình nên bọn mình được no. Bạc vô cứ chia làm hai,
ta chia các quan to, ta chia các quan thừa, đến phần ta còn vài làng. Bởi vậy ta mới trụ nhà nghèo.
Ai nghèo thì phải chịu thua.
Well, it's now time to get back to our love songs.
Est-ce qu'on peut se télétransporter dans un endroit précis au Vietnam de votre mémoire?
Oui. Alors moi, du coup, je pense là tout de suite en fait à devant le Majestic en fait, qui est le port de Saigon, de Chi Minh Ville, où en fait il y a une espèce de bateau comme ça, un bateau en forme de poisson, dans lequel en fait les touristes vont faire un tour comme ça sur le Saigon River. Et en fait, il y a un étage en dessous, un premier étage et un deuxième étage. Et à chaque étage, il y a de la musique. Et voilà, et les touristes, traversent le Saigon River, s'en vont de Saigon et reviennent à Saigon. Et il y a des chansons d'amour françaises. Au sous-sol, du coup, c'est des karaokés très forts. C'est la même musique reprise au premier étage, avec un orchestre. Au troisième étage, pour les gens qui ont un peu plus d'argent, c'est de la flûte à bec.
Et vous avez participé au karaoké des chansons d'amour françaises?
Ouais, quand on est au Vietnam, on est obligé de chanter.
Vous avez choisi quoi?
Moi, j'ai choisi Je suis malade. Mais la version de Dalida.
Ah, d'accord. Valentin?
Alors moi, contrairement, ça ne m'a pas fait penser à forcément un endroit, mais plus à notre grand-père, Hom Noi. Il avait des petites cassettes audio et j'aimais bien écouter ces cassettes. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça tout de suite, la musique vietnamienne à l'ancienne comme ça.
Et vous n'avez pas chanté de chansons françaises d'amour à Ho Chi Minh Ville?
Non.
Aujourd'hui, d'être incertain dans la multiplicité du monde que d'être sûr de soi et de sa pensée, ça ne correspond plus à ce qui se passe dans le monde.
Il est 23h et on peut pleurer à l'étranger, être ému, pleurer de joie ou de vérité. Il faut parler de l'émotion d'une chanson qu'on ne connaît pas quand on est loin de chez soi. Il faut parler de ce moment où l'on est dans un bar, un restaurant, en voyage, en territoire inconnu. Des gens chantent ou se mettent à danser ou font un karaoké et l'émotion est forte. C'est quoi ce mystère qui fait qu'un morceau d'un autre lieu, sur un sol étranger, nous fait cet effet? Comme si ici se jouait quelque chose de notre vie. On se re-raconte les choses depuis le début. On a envie de prendre des grandes décisions. On se sent puissant. La vie touche un point essentiel. C'est éphémère, ponctuel, ce n'est pas du romantisme, c'est assez brut, ça remue. Ça dure quelques couplets, un ou deux refrains. Personne ne le sait, c'est secret. Nos émotions sont faites de superpositions. On peut sentir, dans un lieu inconnu, de la tendresse et du manque. Caroline Guélan-Guyenne est partie à Ho Chi Minh Ville avec une photo de 1954. Ça s'appelait encore Saigon. Elle est partie dans une ville qui n'existe plus, une ville de récits, de légendes. Elle y arrive avec des règles du jeu. Elle propose à ses comédiens, pour commencer, l'errance. Ils ont dans les mains les photos d'un temps ancien, mais ils ne sont pas à la recherche du passé. Ils vont aller contempler le présent et observer son épaisseur. Retrouver l'histoire de ceux qui, en France, se sont parfois trop bien intégrés et qu'on a oubliés. Mettre sur écoute tout ce qui se joue dans ces moments silencieux, de sentiments et de nostalgie, quand on observe une fête se dérouler. Un mariage, une croisière, un bal improvisé. Caroline Guillen-Guyenne occupe des espaces, un appartement, un restaurant, une cuisine. C'est le lieu qui fait parler. Elle aime particulièrement la salle de bal. Elle y revient souvent. Le bal, c'est la possibilité de la rencontre, du changement, et c'est tous ces morceaux sur lesquels on s'est parfois re-raconté la vie, sur lesquels on a eu envie de prendre de grandes décisions qui repassent. Notre histoire nous attend ailleurs que chez nous, là où on n'a jamais été. On peut se retrouver. Les récits de la France se font eux aussi loin de son territoire. Elle dit « Nous sommes faits d'autres histoires que la nôtre, d'autres blessures que les nôtres ». La nostalgie pourrait alors être un programme pour l'avenir. Elle ouvrirait sur bien d'autres territoires que ceux que l'on connaît. Il faut donc parler de l'émotion d'une chanson à l'étranger, entendue par hasard et qui nous fait nous retrouver. Il y aura donc Caroline Guillen-Guyenne, metteur en scène, née un jour de 1981 en France, avec des origines au Vietnam, en Inde ou en Algérie. Elle a créé la compagnie des hommes approximatifs et elle prépare Saïgon, sa nouvelle création. Il y aura Valentin Nguyen-Tiluc, son cousin. Elle a dit « C'est lui qui raconte le mieux en ce moment, peut-être, quelque chose de mon histoire ». À la musique, ce sera un voyage dans la mémoire musicale de Dom La Nena, qui reprend 4 morceaux sur son nouvel EP Cantando pour raconter ses racines musicales. C'est une vie d'artiste sur France Culture, ce sont des vies qui sont faites de plusieurs lieux, réels ou imaginaires, et ça commence en studio par la voix de Dom La Nena.
Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement, parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit... Je vous attends.
The capital city Hanoi is sunny but cold. Temperatures are between 10 and 15 degrees Celsius. And Ho Chi Minh City expects sunshine and scattered thunderstorms. Temperatures are in the range of 23 to 31 degrees Celsius.
Caroline Guillen-Guyenne, vous reconnaissez la voix qui chantonne.
Ouais.
Bref, je vous donne la petite vidéo avec le visage de cette femme, parce que vous pouvez nous décrire peut-être ce moment-là.
Donc, on avait pris un temps pour aller sur ce bateau dont je parlais juste avant, pour partir de Ho Chi Minh pour quitter le port. Juste le temps d'une heure, ce qui était en fait la réalité de cette femme 60 ans plus tôt, puisqu'elle est partie, elle, non pas pour une heure, mais pour 40 ans. Et dans ce bateau, du coup, on est arrivé d'abord au premier étage. On est arrivé au sous-sol, pardon. On avait pris des tickets pas chers, les moins chers. Et là, la musique était très, très, très forte. Et cette femme, du coup, trouvait ça assez insupportable de se retrouver avec cette musique si forte comme ça. Et du coup, à la fin du repas, puisque c'était une espèce de croisière comme ça, où on mangeait, on écoutait de la musique, on s'est infiltré au dernier étage. Et là, on a écouté Edith Piaf, et on a écouté cette femme chanter Edith Piaf. Et elle était au dernier étage, et tout d'un coup, ça lui faisait du bien d'être à l'étage où les gens avaient de l'argent, puisque cette femme a quitté Saigon dans un sous-sol de bateau, puisqu'elle a quitté le Vietnam en tant que Française, mais d'origine vietnamienne. Et donc là, c'était dur pour elle d'être à la même place où le karaoké était très fort, donc il fallait être à l'endroit où il y avait de la flûte, où on chantait La vie en rose. Et voilà. Et c'est ma mère.
Vous avez écrit C'est la petite fille de Saigon, face à moi, avec sa robe à pois.
Oui. Bah, tout d'un coup, il y a quelque chose de son enfance qui était là. Mais...
Et que vous connaissez comment, vous ? Vous avez quel accès à cette histoire-là ?
J'ai eu un accès très tardif, mais à cette histoire-là, enfin, quand on est jeune, moi, la première fois où je suis arrivée à Saigon, j'avais 16 ans, enfin, Ho Chi Minh Ville, pardon, je comprenais rien. C'était tellement loin, tellement pas moi, et tellement pas ce que j'avais vu sous mes yeux de petite fille qui a grandi dans le Var, à Villecroze, avec l'accent du Sud. Tout d'un coup, on me dit, ben regarde, il y a quelque chose peut-être de toi quelque part là, et moi, c'était trop impressionnant. Parce que c'était trop étranger. Et finalement, c'est plus tard que j'ai commencé à comprendre, à refaire le lien, en fait. Mais pas par ma mère, bizarrement. Ça a été Duras, en fait. Ça a été une blanche qui m'a ramenée au Vietnam. C'est comme s'il fallait que j'en repasse par le visage d'une blanche pour comprendre en quoi j'avais un lien avec ce pays-là. Mais par contre, là, juste pour parler du moment... Ma mère, elle chantait Edith Piaf. Moi, j'ai jamais aimé Edith Piaf. Ça m'énerve. Enfin, je sais pas. C'était pas ma vie. Et en fait, là, tout d'un coup, de me dire, ah ouais, mais en fait, ma mère, quand elle chantait Edith Piaf, elle chante pas la France, en fait. Elle chante le Vietnam. Elle chante cette chanson qu'elle a appris au Vietnam. Donc, Edith Piaf est revenue dans la liste de mes musiques maintenant sur mon iPhone.
Et avant 16 ans, c'était quoi les images du Vietnam? Ça représentait quoi?
Des coups de fil de ma mère passés dans un bureau en parlant vietnamien que je comprenais pas. C'était ma grand-mère qu'on appelait pas mamie, mais Bawai. Parce que Bawai, ça veut dire la mère, du côté de la mère. C'était mon père qui disait, bah tiens, faudrait qu'un jour on aille quand même au voyage au Vietnam. Et puis ça a été ma grand-mère qui mettait du yokola, je sais pas si t'en souviens. Baume du thé, yokola, enfin c'est une autre chose. C'était plein d'autres choses, mais que je savais pas encore que c'était.
Mais qui mettait une distance avec votre mère ou qui pouvait vous rapprocher par moment? Parce que c'était
ça mettait ni une distance ni ça nous rapprochait. C'était à elle, en fait. Et oui, je pense que quand effectivement elle parlait vietnamien, de fait, je ne comprenais pas. Donc il y avait un espace total dans lequel je n'avais pas accès. Et voilà, mais d'ailleurs, j'ai toujours pas accès à cet espace-là de la langue. Mais je sais pas si ça mettait de la distance ou pas, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était... qui m'était étranger, mais je me construisais sans avoir la sensation que j'étais en manque de ça. Voilà.
Valentin, Nguyen Thi Luc, est-ce que... le Vietnam, c'était aussi quelque chose de lointain quand vous avez grandi? Ça représentait...
Bizarrement, le Vietnam, c'est quelque chose qui est vraiment loin, mais dans notre famille, ils en parlaient tout le temps, on mangeait vietnamien, à table, ils parlaient vietnamien, les grands, et du coup, on avait l'impression d'être très proches, en fait, finalement. Moi, j'ai ce vécu-là, que nos oncles, les tantes, nos parents, nous racontaient le Vietnam comme s'ils en revenaient d'hier, Après, quand on est allé là-bas, il y avait un décalage parce que déjà le pays il a évolué et puis par rapport à ce qu'on nous racontait, c'était pas le vécu est différent. Du coup, j'ai senti moi un éloignement en allant là-bas, plutôt que sur place, j'avais l'impression d'y être, quoi. Alors que j'étais tout simplement en France. On vivait comme des Vietnamiens, mais en France.
Et est-ce que l'exil, qui est partie intégrante de l'histoire de vos parents, a une place dans votre histoire à vous ? Est-ce que ça se retrouve à un moment donné ? Est-ce que vous avez senti ce... Est-ce que ça s'est transmis ? La sensation de l'exil ?
C'est pas tant l'exil, mais la nostalgie, en fait. C'est-à-dire que je sens toujours que c'est quelque chose de très présent chez moi, l'idée que quelque chose ne va pas revenir. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans mon rapport aux choses, dans mon rapport au présent, dans mon rapport à... Il y a quelque chose qui risque de ne pas revenir, toujours.
Et est-ce que vous avez la même façon de poser les questions, Valentin Nguyen-Tiluc et vous, Caroline Guyela Nguyen, est-ce que vous avez la même façon de poser ces questions-là à propos des racines familiales ? Qu'est-ce qui vous rapproche dans ce... dans cette quête-là?
La famille, c'est sacré. On est élevé dans ce sens-là. Donc on est très attachés les uns des autres. Après, c'est vrai qu'on a été élevés plus ou moins éloignés, mais comme on essaie de se voir les familles, on essaie de se voir en famille. On est élevés ensemble, on va dire, et on s'est senti vietnamiens ensemble. Et c'est, je pense, moi, pour nous, c'était assez difficile de se construire en tant que Français, parce qu'on avait, on baignait dans la culture vietnamienne et on avait envie de s'intégrer. Mais au final, nous, en tant que Français, ça a été difficile. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais aussi Français. Voilà.
Mais après, enfin, moi, je sais que Valentin, par exemple, ce qui nous rapproche aussi, c'est que toi, t'as un père vietnamien, mm-hmm. moi j'ai une mère vietnamienne, enfin française, enfin mm-hmm. Viet Q d'ailleurs. Mais après, moi mon père il est, enfin les pieds noirs, mm-hmm. blancs. Toi Sylvie, elle est blanche,
française, ouais, bien sûr.
Et du coup c'est, enfin moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus questionné en fait ce mélange là en fait, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire, je m'en souviens la première fois où tu m'as dit. Ouais, ou même la première fois où tu m'as dit, je m'en souviens, ça m'avait marqué, tu m'as dit, mais en fait, je crois que je me suis aperçu hyper tard que j'étais mat de peau.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, moi, je m'en souviens que je passais mon temps, quand j'étais plus jeune, à demander à mes amis, mais est-ce que la fille là-bas, elle est aussi mat que moi? Et ils m'ont regardé, ils m'ont fait, mais t'es malade.
On, avait, on se voit blanc.
Et c'est ça.
Comme la France est normalement, on va dire. Et du coup, on a du mal à se voir tel qu'on est, en fait. Français, mais d'une autre couleur, et c'était un travail pour nous, je crois.
Et à quel moment c'est arrivé pour vous, Valentin ?
À l'adolescence, j'ai réalisé ça. Vraiment, même ma mère qui est française, j'ai cru qu'elle était vietnamienne jusqu'à l'adolescence. Parce que notre famille asiatique est grande et vraiment, on était influencés par ça. Et du coup, quand je voyais ma mère française, c'était une évidence pour moi qu'elle était vietnamienne. Et après, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis posé toutes ces questions-là, je me suis interrogé, et ça a été un long travail. Ça a l'air d'être des inconvénients maintenant, alors que c'est plein d'ouverture d'esprit, finalement, après. Quand on se rend compte de ça, on s'ouvre encore à d'autres cultures, et on se mélange encore plus, puisque on va dire perdu pour se reperdre encore avec d'autres gens, et c'est ça qui est bien.
Et est-ce que les questions que vous vous êtes posées, là, en réalisant tout ça, c'est des questions qui intéressaient aussi la génération de vos parents ?
Moi j'ai l'impression non, enfin moi par exemple cette question du, enfin je trouve que la question d'être métisse, elle est différente par rapport à celle de ma mère et celle de ton père. Alors même s'ils sont métis eux aussi, parce que du coup ils sont indiens, mais ils se formulent pas comme ça. Mm-hmm. Ils sont vraiment vietnamiens, enfin c'est vraiment le Vietnam pour eux. Tandis que nous, on a quand même cette question-là du métissage, quoi. C'est-à-dire où est mon histoire, où est, enfin moi je sais que là dernièrement, moi j'ai rajouté Nguyen à mon nom de famille. Mm-hmm. Il y a 5 ans de ça, et à un moment je me dis mais en fait pourquoi je rajoute Nguyen? Parce qu'il faudrait pas que je rajoute Daan, qui est le nom de ma grand-mère du côté de mon père, qui était une juive pied noir. Enfin, et puis à un moment je me dis bon mais non, mais en fait faut garder Guyela. Enfin voilà, c'est, et en fait c'est tous ces mélanges là qui fait qu'à un moment on est un peu paumé en fait. Mmh. Effectivement, je sais que moi aussi j'ai vécu un moment où j'étais paumé, quoi. Et puis ça, cette espèce d'errance, je pense que ma mère elle la comprenait pas, parce que de fait pour elle était dans d'autres problématiques qui étaient de revenir au pays. Et je commence à comprendre là quelles sont les problématiques de ma mère, qui sont, voilà, être Viet Kieu. Viet Kieu, ça veut dire vietnamien étranger. Enfin, c'est-à-dire d'être à la fois vietnamien, à la fois étranger, à la fois dedans, à la fois dehors, à la fois éternellement vietnamien, à la fois éternellement étranger. Et c'est là aussi où se loge, je pense, quand je parlais tout à l'heure de la question de la nostalgie. C'est-à-dire, même dans ce terme-là, il y a la nostalgie. Il y a déjà l'idée que on est parti, on est étranger, mais on est quand même vietnamien. Et du coup, tout ça est en marche tout le temps dans les problématiques que je vois de ma mère, de ton père. Mais d'ailleurs, ton père, c'est différent, Valentin, puisque il est né ici. Donc, ma grand-mère, du coup, elle avait 9 enfants. Ma mère, c'est l'aînée. Et Auguste, c'est le dernier.
Mais bizarrement, ils sont nés, ta mère, elle est née française au Vietnam. Ouais. Et mon père, il est né vietnamien en France. Voilà. La complexité.
Et qu'est-ce qui se passe dans la langue? Parce que vous parlez de la langue, par exemple, de votre mère.
Ouais.
Quand elle retourne au Vietnam, c'est pas la langue d'aujourd'hui, c'est la langue...
C'est vrai, c'est une langue qui a disparu.
Qui a disparu et qui existe à l'intérieur de ces personnes-là.
Ouais. Bah, c'est ce que je raconte toujours, ça m'avait... Je sais pas si je l'ai raconté, Valentin, ça m'avait énormément marqué, c'est qu'on est allé sur un marché, le marché de Bentan, et du coup, j'étais avec un traducteur. Moi, pour moi, ma mère, elle parlait vietnamien, voilà, et moi, je parlais pas vietnamien, c'était clair et net, voilà, c'était comme ça. Et en fait, un jour, je vois, elle veut acheter des fruits, tout ça, donc je lui demande d'acheter des fruits pour moi, sinon, je me fais arnaquer. Et du coup, en fait, elle parle aux femmes, et en fait, je vois que les femmes se moquent d'elle. Enfin, rigole, quoi. Tu vois, et je me dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, il y avait un traducteur, un ami à moi. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle rigole? Et tu, le traducteur, il me dit, non, non, Caro, c'est rien, il n'y a rien. Et je voyais qu'il me mentait. Et du coup, 2 jours plus tard, je lui dis, vas-y, dis-moi, s'il te plaît, ce qu'il y a. Je vois bien qu'il y a un truc, pourquoi est-ce qu'elle rigolait? Et en fait, lui, il m'a dit, mais en fait, ta mère, elle parle une langue qui n'existe plus. Enfin, le vietnamien, il a bougé. C'est-à-dire, quand tu disais Valentin, c'est-à-dire, le pays a bougé, mais même la langue. Donc, c'est comme si elle parlait une langue d'apatride. Et là, à cet endroit-là, je me suis dit, waouh. En fait, c'est vraiment le retour au pays. Il est complexe à cet endroit-là, quoi. Enfin, vraiment. C'est-à-dire, tout d'un coup, on perd la parole, on perd les magasins qu'il y avait à la rue Katina. Ça s'appelle même plus rue Katina, ça s'appelle rue Dankoy. Enfin, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est à la fois totalement reconnaissable et à la fois qui a totalement disparu.
Nous arrivions à Roissy avec nos habits d'été de Saigon. D'abord, quand la porte de l'avion s'est ouverte, on n'a pas voulu descendre. Tout le monde est resté dans l'avion, on s'est replié sur nos chaises. Dans le Boeing, on était une centaine, je pense, dans notre cas. Parce que pour la première fois, on recevait le froid. Tout le monde a refusé de descendre. C'est comme si on nous ouvrait la porte du frigidaire, quoi. Et bon, finalement, on est descendu. On nous a distribué des vêtements. On avait les mêmes vêtements, là. C'était rigolo.
Tous les mêmes vêtements?
Tous les mêmes manteaux beige. Qui étaient très beaux et très chauds. Et on allait, on se suivait, on suivait les gens qui nous conduisaient dans, je pense, une sorte de brasserie. On s'asseyait tous à une grande table. Et c'est après que j'ai compris que ça devait être le repas de Noël. Parce que je me souviens des lumières, des loupiottes, tout ça. Et on nous a servi un repas. On a regardé le repas, on savait pas quoi faire. Parce que dans nos assiettes, il y avait des petits pois et des morceaux de steak. Et nous, les enfants, les jeunes, en tout cas, même ma mère, je pense... On mangeait avec nos baguettes et on savait pas par quelle main prendre le couteau, la fourchette, même couper un morceau de viande dans une assiette, on savait pas quoi.
C'était la voix de la documentariste Touyet Pam qui raconte donc son arrivée en France. C'est marrant parce qu'elle parle de la nourriture et ce récit-là de rencontre entre ces deux périodes, Saigon dans les années 50 et puis la France d'aujourd'hui. Vous avez choisi un restaurant pour raconter ça.
Ouais.
Et vous avez choisi la nourriture, la cuisine.
Ouais.
Et puis cet espace où justement on danse aussi, on chante parfois. Pourquoi le restaurant vietnamien ?
Et puis c'est ce que mon cousin disait tout à l'heure quand on m'a posé la question, de qu'est-ce qu'il y avait du Vietnam. Enfin, c'est vrai que moi, on a toujours mangé vietnamien, la nourriture. Mais la nourriture, c'est vraiment une organisation, mais quasi.
Le petit déjeuner, là, ça commence à préparer. On est au cornflakes et à côté, c'est en train de préparer les nems.
Oui, c'est-à-dire. C'est ça. Puis du coup, cette réunion, moi, j'ai toujours vu ma grand-mère avec ma mère, mes tantes, tout ça. Enfin. Faire à manger, c'est aussi un lieu où du coup, c'est une organisation affective, voilà, enfin non, mais il y a quelque chose vraiment ma grand-mère, je sais pas si elle a déjà dit qu'elle aimait ses enfants, mais en tout cas, je sais qu'elle a toujours été à n'importe quel moment dans leur vie, qu'ils habitent dans un studio, ou qu'ils passent le bac, ou qu'ils sont en train de divorcer, en train de faire à manger chez eux, où qu'ils soient en Australie, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient au Vietnam, enfin, elle est là, elle fait à manger. Et du coup, la nourriture, effectivement, c'est quelque chose enfin qui est incontournable pour parler du Vietnam, mais même pour parler de l'émotion, en fait. Il y a quelque chose de l'émotion dans la nourriture, enfin des sentiments, quoi.
Et c'est quelque chose qui a été transmis, vous savez cuisiner, Valentin ?
J'étais interdit de cuisiner, garçon, je ne cuisine pas. Malheureusement, voilà. J'ai tenté une approche avec ma grand-mère qui m'a refusé l'accès. Et du coup, ça m'a arrêté dans le métier de cuisinier.
Ah bon,
mais par contre, j'aime bien manger.
D'accord.
Je ne suis pas corse, mais vraiment pas. Je n'ai aucune racine. Et je suis corse, c'est-à-dire que j'y suis accueillie et que ça compte énormément pour moi. Et c'est au fond de ce pays-là, qui n'est pas le mien, que j'ai quelque chose comme de la nostalgie quand je n'y suis pas, ou j'ai envie d'y revenir, ou ça me manque. Et ça me manque justement... pas parce que j'y ai des racines. Et c'est à partir de là que je me suis interrogée. Alors il se trouve qu'on a une maison en Corse, dans un très bel endroit absolument magique, d'où on voit le monde. Et ça compte beaucoup, c'est-à-dire que c'est un point de vue sur le monde. La mer s'ouvre, le monde s'ouvre, c'est un vrai cosmos. Vous savez, cosmos, ça veut dire ordre. Ordre et beauté, peut-être c'est Baudelaire qui l'aurait bien traduit. Ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et donc, je vois le cosmos de cette maison.
C'est-à-dire cette Méditerranée.
La Méditerranée. Et un point de vue d'île. C'est-à-dire, quelque part, c'est un point de vue sur le monde.
C'est Barbara Cassin, et je crois que vous la citez parfois, Caroline Guillen Guyen, parce qu'elle parle justement de cette nostalgie par rapport à un lieu où on n'a peut-être jamais été, ou en tout cas, c'est pas un lieu d'où on vient. C'est quelque chose que vous avez ressenti ?
Ouais. En fait, ça m'avait fait ça quand je suis allée à Istanbul la première fois. Vraiment, je suis arrivée dans cette ville, et c'était comme si j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait que je passe du temps là, quelque chose où je me sentais chez moi. Enfin, je me souviens même être allée à la mosquée bleue, je l'avais raconté Valentin, ouais. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui m'a... Alors qu'il y a plusieurs religions qui ont traversé mon foyer, enfin, que ce soit le bouddhisme, que ce soit du coup aussi la religion catholique, puisque ma mère est très catholique, que ce soit du côté de ma grand-mère, du coup, la religion juive. Mais du coup, enfin voilà, j'étais jamais allée dans une mosquée. Et en fait, j'avais reconnu quelque chose là, à cet endroit-là. Et ça m'avait fait du bien, en fait, d'être sur un lieu aussi qui, a priori, ne contenait rien de mon histoire. Pour le coup, Istanbul, ça n'existe pas dans la généalogie des Nguyen d'Anguilla. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui... Et quelque chose peut nous contenir à un endroit et on ne sait pas encore, quoi.
Vous avez déjà ressenti ça, Valentin ? Un endroit qui n'est pas forcément le vôtre, un attachement, quelque chose qui colle parfaitement à...
Bah, non, justement... En France, j'ai l'impression qu'on me voit plutôt comme un étranger. Et quand j'ai cru aller en allant au Vietnam retrouver justement le pays qu'on m'a tant parlé et qui pouvait être chez moi, et je me suis senti encore plus étranger puisque déjà je parlais pas la langue, j'avais porté qu'un nom de famille vietnamien, mais je me faisais arnaquer à tous les coins de rue comme n'importe quel touriste. Du coup, non, je me suis perdu en me disant que j'avais pas vraiment d'attache d'un pays, mais j'étais plus un enfant du monde. Du coup, je me sens chez moi dans le monde, mais pas dans un endroit précis, finalement. En fait.
Dom La Nena est brésilienne, mais a passé ses années enfant à Paris et puis adolescente à Buenos Aires avant de revenir à Paris. Depuis le début, elle superpose les lieux et les émotions. Et elle fait un écho à un chemin particulier. Souvent, ça parle de voyage et de déplacement. Dans un précédent morceau, elle chantait « Je n'ai pas de maison, je vis dans la marée ». Cette fois-ci, ce sont quatre morceaux comme quatre émotions et quatre bouts de son histoire, quatre reprises, de Jacques Brel à Violeta Parra. Le nouvel EP remonte les racines musicales et s'appelle Cantando.
Je suis Dom La Nena et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Felicidade vai embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Atrás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade vai embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora.
Moi, je ne vais pas retourner.
Vous ne voulez pas retourner en arrière?
En arrière.
Non.
Mais la vie me force que je retourne toujours.
Oui.
Parce que c'est, pour moi, le passé, retourner en arrière, c'est la méthode de la création.
Tadeusz Kantor qui parlait de retourner en arrière. Vous avez une image devant les yeux,
ouais.
Caroline Guillen-Guyenne. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Une photo?
Alors, c'est une photo en noir et blanc. C'est une salle de bal. Il y a plein de gens qui sont en train de danser. Les hommes sont habillés en blanc. Et il y a des ventilateurs. Donc, je crois qu'on est à Saïgon. On est en 56. Et en fait, il y a des blancs, des Français blancs, cette photo. Et devant moi, enfin, il y a une femme qui retournait avec une barrette blanche dans les cheveux. Et elle, on dirait qu'elle est vietnamienne. Et elle est au bras d'un homme qui danse blanc. Et je ne sais pas sur quelle chanson, sur quelle musique il danse, mais.
Voilà. Et c'est à l'Hôtel Majestic ?
Je crois.
Et vous êtes partie au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, avec cette photo en main ?
Ouais. Je l'avais achetée, en fait, parce que je chine des photos sur eBay, donc des gens qui vendent des photos. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a vendu cette photo-là. Et l'idée, c'était d'essayer d'enquêter, en fait. Enfin, c'était comme une règle du jeu. Se demander ce qui s'était passé le jour de ce bal-là. Et d'essayer de voir quels étaient l'écho de cette histoire dans le présent, quand on y était, nous.
Quand vous êtes partie à Saigon, donc au Ho Chi Minh Ville, avec les comédiens avec lesquels vous travaillez.
Alors, c'était pas les comédiens, en fait, c'était les gens de la compagnie. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire créateurs sonores, scénographes, voilà, on était 6-7.
Et alors, quand vous êtes partis ensemble, vous avez établi quelques règles du jeu à ce que vous avez appelé l'errance,
Où
justement aller chercher des indices et tirer un peu les fils de cette enquête pour trouver des récits, des voix, des visages, parce qu'il y a certaines vidéos que vous avez rapportées. Est-ce que vous pouvez lire juste le début des règles du jeu ?
Alors, les règles du jeu. 1. Je vous propose donc de commencer l'errance, peut-être même à l'aéroport. 2. L'idée n'est pas de faire une fouille archéologique ni de rentrer précisément dans ce qu'on appelle l'histoire, mais de prendre l'histoire ou la fouille archéologique comme autant d'éléments qui nous permettront de faire ressurgir le présent. Nous allons vivre dans cette ville qui porte un double nom, Saigon ou Ho Chi Minh Ville. Une double sonorité, un double temps, un double paysage, un double espace. 3. Il faut errer pour savoir ce que l'on cherche. Nous prendrons cette photo de réception et les autres éléments disposés dans la pochette pour stimuler notre errance et notre imaginaire. Merci de vous acheter Mrs. Dalloway de Virginia Woolf avant de partir et de le prendre avec vous durant le voyage.
Pourquoi il fallait Virginia Woolf dans ses bagages ?
Parce que je trouvais ça... c'était ce que je... La grande question que j'arrêtais pas de poser, c'était de quoi sont faites nos blessures ? Et quand j'avais lu Mrs. Dalloway... Je trouvais ça, je trouvais ça très beau, cette femme en fait, Mrs. Dalloway, qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, se trouve complètement ravagée par le suicide de cet homme à la fin qu'elle ne connaît pas. Et que tout d'un coup, finalement, on a l'impression que cette femme blanche, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité sociale, historique de cet homme-là, est malgré tout travaillée profondément par cette douleur, quoi, qui pourtant ne lui appartient pas, mais qui pourtant la fragilise. Et je trouvais ça important pour nous, en tant que blancs, en fait, si je peux dire ça de moi aussi, pour une partie, d'aller, du coup, au Vietnam et de se dire, quelque chose dans Saigon porte une douleur qui va nous raconter, en fait. Et... C'est un créateur sonore avec qui on travaille, Antoine Richard, qui disait, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'entends les gens chanter là-bas, je pleure. Je pense qu'on pleure pour des choses totalement différentes, mais quelque chose de leurs larmes me parle de mes larmes à moi. Et je ressens vraiment ça. C'est-à-dire, quand je vais au Vietnam, d'ailleurs, les gens ont tous pleuré, mais aussi par le décalage horaire. Hein. Enfin, juste, on est crevé, on arrive là-bas, on est décalé, il fait chaud, il y a du bruit de partout. Enfin, on est dans un état de fragilité énorme quand on arrive dans un pays étranger. Et
là, on entend la voix de quelqu'un qui chante.
Ouais. C'est en fait notre traductrice, du coup, qui s'appelle Thu. Et voilà, elle chante « Viens m'embrasser » de Julio Iglesias.
Et là, c'était quelle émotion, par exemple, en l'entendant chanter Julio Iglesias, tout à coup à Saigon?
Ben déjà, je trouve ça tellement beau, en fait, juste de l'entendre avec ce français fragile, cet accent, et de la voir chanter Julio Iglesias à Saigon. Enfin, c'était une émotion. Je sais pas, je trouvais ça beau, en fait. Je trouve ça beau, cette fragilité du français. Je réentends la chanson, en fait, aussi, que je trouve hyper belle. Et puis voilà, enfin aussi, quand on est au Vietnam, toutes les chansons d'amour, elles prennent une dimension très différente, parce que, par exemple, Viens m'embrasser, toi qui t'en vas, oublie que je suis triste, oublie et souris-moi, enfin, quelque part, ça peut aussi parler de des gens qui ne se sont pas revus, qui se sont séparés, puisque c'est les histoires qu'on va faire dans Saigon, c'est-à-dire, à un moment, quand, dans une chanson de Christophe, il dit « et la mer nous sépare », oui, la mer nous sépare, c'est pas qu'une métaphore, c'est pas que... c'est que, concrètement, il y a des gens qui avaient de grandes histoires d'amour et qui ont dû se séparer aussi, et que le Vietnam est plein de ça, quoi, et plein de gens qui ont vu d'autres personnes partir, et qui, j'ai l'impression, pour le coup, ont continué à chanter des chansons dans des karaokés, de ce déchirement-là, quoi. Et peut-être je pourrais raconter une chose, en fait, qui je trouve très symbolique du Vietnam. En fait, au Vietnam, on dit jamais que le premier d'une famille, c'est le premier. En fait, on dit toujours que c'est le deuxième. Dans ma mère, qui est l'aînée de la famille, on dit pas que c'est l'aînée, on dit que c'est la deuxième. Et j'ai souvent essayé de comprendre pourquoi, et j'ai plusieurs explications, dont une qui me plaît beaucoup, où en fait, on m'a dit que, en fait, les Vietnamiens du Sud, c'est vraiment lié au Sud, hein, Ho Chi Minh. En fait, ce sont des gens qui ont quitté le Nord pour aller vers le Sud. Et donc, en fait, toutes les familles du Sud, en fait, sont des familles qui ont déjà vécu un exil, du Nord au Sud. Et en fait, dans les familles, on ne dit pas qu'il y a le premier enfant, parce qu'il y a toujours un enfant qu'on a oublié à l'endroit où on est parti. Et voilà, en fait, tout est organisé un peu comme ça au Vietnam. Il y a tout le temps quelqu'un qui manque, il y a tout le temps quelqu'un qui n'est pas là, et du coup, il y a toujours une chanson à chanter pour ça.
Et c'est assez beau d'écouter ces chansons d'amour, parfois européennes ou françaises. C'est, ça raconte aussi justement les deux mondes que vous mettez en contact.
Bien sûr.
Et que vous allez mettre en contact sur scène aussi concrètement, parce qu'il y a des comédiens français et des comédiens vietnamiens.
Ouais. Et des comédiens Viet Kieu, donc des comédiens français d'origine vietnamienne. Ouais. Déjà, le choix des comédiens, c'est déjà rentrer dans un récit, en fait, parce que de fait, prendre des comédiens vietnamiens, prendre des comédiens français et Viet Kieu, on est déjà dans un récit, en fait. L'histoire a pas commencé, mais elle est déjà là. Et il s'agit de, voilà, maintenant d'être conséquent avec ça, de regarder. Et après, effectivement, voilà, de fait, quand Dan Hurtus improvise avec Phu Hao Nguyen, qui ne parlent pas la même langue, qu'il va falloir improviser ensemble, qui joue l'histoire d'un couple, d'un homme qui est tombé fou amoureux d'une femme vietnamienne, ben de fait, il y a déjà quelque chose qui est en train de se raconter avant moi, avant le plateau, et c'est là, en fait, il faut savoir le récupérer. Après, voilà, donc il y a le choix des comédiens, puis il y a le choix du lieu, effectivement, comme je disais tout à l'heure. Enfin, le lieu, ça me donne tout le temps des indices de narration, donc là, le restaurant vietnamien, la salle de bal, voilà. Et puis, il y a, voilà, nos errances, le fait d'être allé à Saigon, là, par exemple, le Saigon, enfin, moi, vraiment, j'arrête pas de me dire, quand on créera le spectacle, il faut pas que j'oublie cette émotion que j'ai eue à Saigon, c'est-à-dire cette nostalgie dont je parle, ces chansons d'amour, ce trajet des larmes beaucoup plus rapide au Vietnam qu'en France, enfin, de pas avoir peur du mélodrame. En fait, un pays nous donne aussi une indication sur les histoires. Là, c'est marrant, je reviens des États-Unis et je me disais, oh, en fait, j'aurais fait un projet sur la BAC, enfin bon, c'est pour plus tard, sur les brigades anticriminelles. Et en fait, en étant aux États-Unis, je me disais, non, en fait, c'est aux États-Unis qu'il faut le faire, parce que tout d'un coup, je sens que ce pays-là peut me donner m'ouvre des fictions qu'en France, j'ouvrirais pas. Mais là, Saigon, c'est ça, c'est-à-dire, je sens qu'il va pas falloir oublier Saigon, vraiment. Quitte à être dans le mélodrame, qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs. Hein. Voilà, il faut ouvrir ces histoires-là.
Dom La Nena, c'est un morceau de Violeta Parra qui s'appelle Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, ladridos, turbinas, martillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando veo el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.
Ariane Mnouchkine, metteur en scène de ce spectacle insolent et insolite, a bien voulu me parler de son travail sur la pièce et sur les acteurs qu'elle nécessite.
Alors, ces choses évidentes, c'est d'abord que, pour moi, que je suis incapable de travailler seule au théâtre. Que le théâtre, c'est... Mais alors, c'est impossible que ça ne soit pas une communauté. Enfin, je ne suis pas mystique, alors je ne dirais pas de couvent, mais Camus disait, hein, c'est un couvent ambulant. Mais... Peut-être pas, mais il y a de ça, certainement. C'est un groupe de gens qui, dans leur métier, ne peuvent exister les uns sans les autres. une des choses qui nous a le plus influencé, si vous voulez, c'est le fait que nous nous trouvions très mal préparés en tant que comédiens. Et le fait que, je crois, la majorité des comédiens sont mal préparés. Leur préparation est la conséquence de l'idée qu'on se fait du théâtre, c'est-à-dire le théâtre, c'est le verbe. Alors, voilà, on leur apprend à peu près qu'à parler. Et quand on commence à trouver, nous, que le théâtre, c'est peut-être le verbe, mais c'est aussi autre chose, c'est peut-être le mouvement, c'est peut-être des tas d'autres choses, on s'aperçoit qu'on est infirme. Après deux spectacles, en fait, on s'est dit, si ça continue comme ça, on va faire des spectacles qui seront peut-être de mieux en mieux, enfin, de moins en moins mal, mais on plafonnera très vite. Et il y a eu une décision de prise qui était que la compagnie continuerait à se former jusqu'à l'extinction complète de ses membres, c'est-à-dire que nous serions encore en train d'apprendre lors de notre dernier spectacle.
Caroline Guillen-Guyenne, est-ce que vous pensez, comme Ariane Mouchkine, que le théâtre, c'est une communauté, avant tout, ou un groupe de personnes qui a envie ensemble de prendre en charge un récit?
Oui, en tout cas, même si je le pensais pas, c'est vraiment la réalité, parce que, enfin là, je viens de passer 2 semaines de répétition à Saigon, enfin Ho Chi Minh Ville, avec 21 personnes, français, vietnamiens, dont 2 qui ont tenu un restaurant vietnamien. Enfin, dans ce que vient de dire Mouchkine, il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est que l'acteur, ce n'est pas que le verbe. Enfin, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut arriver sur un plateau et juste, c'est déjà tellement énorme, un visage, un corps sur un plateau, et de trouver comment est-ce que ça, déjà, c'est du théâtre et c'est de la présence. Mais au-delà de ça aussi, comment est-ce qu'on écrit nos récits? Et c'est ça que nous, on essaye de faire, avec des endroits où les gens ont des outils, ont un outil de langage qui est très différent. Et l'écriture au plateau, peut-être pour notre compagnie, elle est importante vraiment à cet endroit-là, c'est de créer du commun pour des gens qui n'ont pas de commun. Jusque dans la question de la langue. Et il existe très peu d'espace dans la société où on peut vraiment parler avec des gens, rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes outils de langage, mais vraiment pas les mêmes outils. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à créer un spectacle avec des gens qui ont des rapports à la langue qui sont différents? Et comment est-ce que ça donne une vraie matière théâtrale, quoi, enfin, et aussi, enfin, et des situations et des gens, quoi.
Ça, c'est la question que vous posez souvent, c'est comment on met en scène la vie, comment on organise du vivant concrètement.
Ouais. Par exemple, là j'étais très touchée d'avoir pour la première fois quelqu'un dans l'équipe qui parle très bien vietnamien mais qui parle très mal français. Et en même temps, on pourrait dire d'elle qu'elle parle mal français, mais en même temps, du coup, la façon dont elle va formuler quelque chose, la façon dont elle va chercher absolument ses mots. Enfin, je disais à un ami, je disais, en fait, c'est fou d'avoir tellement de choses à dire avec si peu de mots. Et du coup, la façon dont cette langue sort, ça devient une langue. Et pour moi, c'est du réel, en fait. Enfin, d'un coup, ça me donne l'écho du réel, quelque chose que j'ai vu chez ma grand-mère qui parlait comme ça. Et après, on fictionnalise. Enfin, moi, j'ai besoin de la fiction pour rentrer dans le jeu, même, enfin, J-E-U, avec les gens. Mais voilà, pour moi, c'est une façon de mettre en scène la vie, les gens de la vie, je sais pas.
Et ce retour à Saigon, est-ce qu'il y a eu un retour en Algérie?
Ben non. Non, il n'y a pas eu de retour en Algérie. Ça raconte des choses, le fait qu'il n'y ait pas eu de retour en Algérie. Parce que je pense que l'histoire de mon père, donc en tant que pied noir, a pris beaucoup moins de place chez moi que celle de ma mère, mais pas parce que mon père était taiseux, puisque c'était un pied noir, mais parce que en fait, tout simplement, c'est plus compliqué politiquement, c'est plus compliqué. Les mémoires sont encore très abîmées. Et donc, de fait, on peut pas parler de l'Algérie de la même façon qu'on a parlé d'Ho Chi Minh-ville, enfin d'Alger, puisque je parle d'Alger, mon père était d'Alger. On peut pas parler de la même façon, alors que pourtant il s'agit effectivement de deux colonies, deux anciennes colonies françaises. Et donc, moi, j'ai mis du temps même. Enfin, avant, moi, je m'en souviens que j'ai eu toute une période de mon adolescence où je jugeais énormément mon père. Pour moi, c'était le colon, quoi. Et mon père était le colon, ma mère était la colonisée, je comprenais rien à ce qui se passait. Donc du coup, en gros, c'était devenu un petit peu l'ennemi de la maison. Doucement, parce que j'aimais énormément mon père. Mais quelque part, au fond de moi, je pense qu'il existait ça. Et du coup, le retour en Algérie, pour moi, il ne pouvait pas se faire, et certainement pas avec mon père. J'ai lu un livre de d'ailleurs Laurent Mauvignier, c'est super, je suis contente de pouvoir le dire à la radio, j'ai lu Des Hommes. Et en fait, c'est un livre qui a été totalement bouleversant pour moi, parce qu'en fait, j'ai récupéré l'histoire de mon père. J'ai récupéré la complexité que c'était d'être pied noir aussi. Mais seulement du coup, entre-temps, mon père était décédé. Donc du coup, je me suis dit, je retourne en Algérie, mais je retournerai. Enfin, j'irai, d'ailleurs, je ne sais pas. Allez. Mais oui, j'irai, mais plus tard, quoi. Voilà.
On a ouvert l'émission avec un visage qui est un visage très familier, qui est celui de votre mère. Et c'est cette scène, il y a Edith Piaf qui passe dans le fond et elle chantonne. Et vous avez écrit un petit texte à côté de ces images et de son visage. Vous pouvez le lire?
Oui, alors juste, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Jérémy Chadler, qui est dramaturge dans la compagnie et qui était avec moi, avec ma mère, sur ce bateau. Alors, sur ce bateau, S chante. Face à moi, c'est la petite fille de Saigon, dans sa robe à pois. Cet instant, ce moment banal et non réfléchi, c'est la revanche de la petite fille de Saigon, la revanche de la petite Française indigène. La voici, sur la terre de ses ancêtres, après l'exil, après les guerres, après la dictature, elle est là, chante dans cette langue transmise à ses enfants. Ce français qu'elle ne partage plus avec les Vietnamiens quand ils chantent. Elle est là, elle est belle, et dans ses yeux, c'est une joie indéfinissable. Son regard embrasse sa ville natale là-bas, Saigon, Ho Chi Minh-ville, mais pour elle, c'est Saigon. Saigon, ce soir, c'est le nom de sa blessure.